France Musique. France Musique, les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Miguel da Silva, je suis né le 7 janvier 1961 à Reims et je suis altiste.
Bonjour Miguel da Silva.
Bonjour Judith.
Et merci beaucoup de nous recevoir, de nous accorder ce temps. Vous êtes altiste, on l'entendait, chambriste, quartettiste au sein du Quatuor Isaïe, soliste, pédagogue. Votre vie est musique portée par ce son qui vous caractérise, dense, corsé, toujours timbré même dans les plus douces nuances. Un disque Brahms vient de paraître, qui vous voit en compagnie de Xavier Philips et François-Frédéric Guy. Une année scolaire pour le moins atypique s'achève, des académies d'été se profilent. Comment est-ce que vous allez en ces jours de printemps où la vie peu à peu reprend quelques couleurs ?
Écoutez, je vais très très bien et je suis très heureux de sortir de ce tunnel qu'a représenté cette pandémie pour tout le monde, surtout pour mes étudiants et les jeunes musiciens, parce que on a beaucoup parlé des aînés et de nous tous, et en effet c'était une période très anxiogène, très difficile de ne pas pouvoir s'exprimer sur scène, de ne pas pouvoir rencontrer et continuer à cultiver notre relation avec le public. C'est une chose qui était très difficile, mais je dois dire que ce qu'ont traversé nos étudiants a été une chose épouvantable, parce qu'ils sont dans des circonstances, parfois dans des locaux un peu exigus, avec des moyens modestes. Parfois, ils financent leurs études avec des cachets, des remplacements qu'ils font dans tel ou tel orchestre. Et tout ça étant arrêté, ils se sont retrouvés face à eux-mêmes dans des endroits tout petits avec des cours parfois en visio, parfois en présentiel. Moi, j'ai essayé de maintenir beaucoup le présentiel en prenant bien sûr aucun risque, en m'adaptant aux mesures sanitaires, que ce soit à Paris, Genève ou à Bruxelles. Mais je voulais dire, je suis content qu'on en sorte parce que je commençais à être vraiment très inquiet pour eux, surtout pour eux.
Lorsqu'il s'est agi d'organiser notre rendez-vous, vous avez pensé à plusieurs lieux dans Paris, des lieux qui font sens, hein, c'est un peu l'objet de ces grands entretiens qui essayent toujours de se retrouver au plus proche de celui qu'on va écouter. Est-ce que vous pourriez décrire aux auditeurs le lieu où nous sommes et en quoi il est signifiant pour vous ?
Alors ce lieu a été très important à double titre pour moi. En premier lieu, c'est une rencontre avec une famille qui a toujours été à mes côtés, présente, et qui a toujours été excessivement bienveillante dans des moments où le jeune artiste que j'étais a pu avoir besoin de ce soutien. Lorsque je dis ce soutien, je ne fais aucune allusion à des choses financières ou des choses comme ça. Je parle des notions de culture, de valeur. Et le Quatuor Isaïe a eu la chance de travailler dans ce lieu pendant 25 ans, le temps qu'il soit construit. Et ça a été notre lieu de travail, notre lieu de réflexion, notre lieu de dispute parfois, notre lieu de grande joie. C'est notre appartement de travail.
Pas mal, au cœur de Paris.
Au cœur de Paris, voilà.
Pas très loin d'un beau musée.
Tout à fait, tout près d'un beau musée, pas très loin d'un très beau jardin et dans un très beau quartier. Quand vous sortez de la salle, vous êtes devant un hôtel particulier de Nicolas Ledoux. Donc, bien sûr, vous êtes nourri de tout cela et le quartier est un quartier emblématique de Paris, oui.
Quand Paris s'éveille au mois d'avril, quand le soleil revient d'exil, quand l'air plus doux berce une jeune romance, quand le printemps vraiment commence, alors voici qu'aux portes de Paris accourt tout le pays par l'amour ébloui. Et du nord jusqu'au midi, la France chante et rit en avril à Paris.
Cette sensibilité à la beauté, c'est quelque chose que vous avez toujours eu ?
Ce rapport à la beauté, ce rapport à l'architecture, ce rapport à la langue, je crois qu'il est essentiel pour un musicien. En tout cas, moi, je suis très sensible à ça, oui. Dans mon enfance, je n'ai pas été élevé dans un milieu où la beauté ou l'esthétisme était très présent.
Vous sentiez que vous aviez des choses à rattraper ?
Ah oui, oui, oui. Je me sentais, en arrivant à Paris, pas vraiment à ma place. Enfin, je sais pas comment dire, pas légitime, en quelque sorte. Je suis né dans un milieu excessivement modeste, d'un père immigré qui était né sur un bateau en 1908 entre le Brésil et le Portugal, un monsieur remarquablement droit, très honnête, qui m'a eu assez tard, qui lisait le français, qui ne pouvait pas l'écrire, une maman excessivement aimante, très 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 présente, vraiment quand je dis très présente, je passerai des détails, enfin à moins que on ait plusieurs semaines d'émission, je pourrais vous en parler abondamment. Mais une mère très présente, un caractère complètement différent. Et je peux dire que j'étais nourri d'amour, comme souvent les enfants, mais vraiment d'un amour intense. Ma mère m'attendait avec beaucoup d'impatience. Quand je suis né, elle avait 46 ans. Et donc, elle a tout arrêté pour s'occuper de son gamin, quoi.
Vous êtes fils unique ? Vous êtes le premier ?
Alors, c'est compliqué. Mes parents avaient chacun une fille. Ma première demi-sœur a aujourd'hui... je crois 89 ou 91 ans, et ma seconde demi-sœur qui est décédée aurait 76 ans. Donc j'avais 16 ans de différence avec ma deuxième demi-sœur avec laquelle j'ai été élevé. J'ai quelques souvenirs d'avoir eu en quelque sorte deux mamans. Il arrivait qu'on me donnait deux fois un souper parce que elles n'étaient pas ensemble au moment où je prenais le premier, donc deux bains, enfin deux câlins, deux histoires, enfin.
Et ça, vous en avez profité ou c'était trop ?
Bah écoutez, ça m'a nourri, ça m'a donné, je pense, une certaine forme de confiance, mais ça m'a, je pense aussi, certainement, construit d'une façon particulière. Tout ça pour revenir à la beauté ou l'esthétisme n'était pas quelque chose qui était milieu modeste, voilà. Et je suis, moi, un pur produit de la République, en quelque sorte, de cette politique mise en place par Marcel Landowski dans les écoles. Et donc j'ai été sélectionné parmi X enfants à l'école maternelle sur des reproductions de rythmes, des petites mélodies qu'il fallait retenir. Ce qui a beaucoup plu à ma mère, c'est qu'on lui a dit que les enfants qui suivraient cette filière seraient des enfants très très observés. Le moindre décrochage scolaire serait tout de suite appréhendé, repéré, et on les remettrait dans une filière normale. Donc, étant donné que ma mère n'était pas très... avait un peu peur qu'elle ne puisse pas vraiment m'aider, quoi, elle s'est dit, bah, super, l'école va faire vraiment un double travail, en quelque sorte. Donc, on m'a poussé dans cette direction-là. Puis après, au fil des rencontres, la musique est devenue ma langue.
France Musique, les grands entretiens de Miguel da Silva.
Vous évoquez votre père avec ce destin romanesque de naître sur un bateau entre le Brésil et le Portugal. Et quand est-ce qu'il est arrivé à Reims?
Mon père naît en 1908 dans les eaux portugaises. Donc il est déclaré à Porto en arrivant, à Saint-Mamenim-Fest. Et donc sa maman, sa mère meurt lors de l'accouchement. Donc son père se retrouve avec cet enfant. Et après une année vivant dans la banlieue de Porto, il rencontre une femme qui a elle-même une fille et qui est veuve également. Et donc ces deux êtres vont se marier et mon père va être en quelque sorte face à une demi-sœur par alliance, Marie-Rose. Et dès l'âge de 3-4 ans, mon père m'a toujours dit que dès qu'il avait ouvert les yeux et qu'il avait vu Marie-Rose, il n'avait jamais vu une aussi belle jeune fille et il va se marier avec cette jeune fille, mon père. Et de cette union va naître ma première demi-sœur, Antoinette. Donc tout ça pour dire que mon père arrive dans les années 24-25, dans l'est de la France, dans l'Aisne plus exactement, parce que son père était venu immigrer pour gagner de l'argent. Quoi. Donc mon père est manœuvre, et après ça il fait venir sa femme, qui malheureusement va décéder de la tuberculose, et mon père va... se construire comme ça, comme beaucoup cette immigration portugaise qui s'est merveilleusement intégrée, va devenir peintre en bâtiment. Et puis, étant donné que c'était vraiment un homme très courageux, et il avait une intelligence de la relation, il avait une intelligence humaine assez développée, il va devenir un peu un contremaître, le contremaître de sa boîte quoi, de peinture. Ce sera toujours un peu, pour moi, cette vision de l'homme droit, de l'homme intègre, rigoureux, exigeant, qui balancera justement avec cette mère assez imprévisible, excessivement présente, assez violente. C'était assez sportif.
Passionnée, vous diriez qu'elle était ou...
Elle était un petit peu nerveusement, enfin elle était pathologiquement malade. Ma mère a fait une grosse dépression nerveuse. On a été séparés un an et demi. Parce qu'il fallait vraiment la soigner, donc c'était quelqu'un d'un peu instable. Maintenant, on dit, je crois, bipolaire. Je crois qu'elle était un peu bipolaire. Et donc, c'était pour mon père pas facile à gérer. Et pour moi, franchement, pas facile du tout. Mais je veux dire que la musique, sans m'en rendre compte, je partageais ça avec personne. C'était un peu mon jardin secret et je m'y sentais bien. Et je dois dire que si j'avais pas fait de musique, je sais pas ce qu'aurait été ma vie.
Parce que votre père, d'une certaine façon, le hasard de la vie a fait qu'il a un peu répété le schéma de son propre père. Il s'est retrouvé avec cette Antoinette aussi à l'élever
bien sûr.
Tout seul.
Ça, tout à fait, bien sûr. Mais je crois que, oui, la psychanalyse quand même est là pour comprendre ces choses-là. Oui, parfois on répète un peu les choses, moi-même je répète un peu aussi les choses.
Vous aussi, vous avez eu ce genre de trajet, vous diriez?
Non, c'est-à-dire ce que... Non, je fais allusion là à une chose que vous savez peut-être pas, mais je suis papa d'un petit Joseph après avoir eu deux filles merveilleuses, deux princesses, ma Clara et Juliette. J'ai, depuis exactement 22 jours, un petit Joseph dans ma vie, un fils. Donc, en quelque sorte, je faisais allusion à cela, à reproduire le fait de donner naissance à un enfant, comme on dit, sur le tard.
Oui, parce que votre père vous a eu, il avait quel âge alors?
J'ai fait mieux que lui, il avait 56 ans. J'ai fait un peu mieux que lui, voilà, on s'améliore.
Votre mère, d'où venait-elle, elle, alors?
Alors, c'est aussi une histoire singulière. Ma mère est officiellement est née en Champagne, à Étoges. Et ma mère, dans ses délires, parfois, quand j'étais enfant, n'arrêtait pas de dire qu'elle était suisse. Et mon père, devant cette femme imprévisible, bipolaire, me disait gentiment « Laisse tomber, Miguel, laisse-la parler. » Enfin, voilà, bon, très bien. Et puis, mon père est décédé en 92. Ma mère, 7 ans après, a fait un lourd AVC. Elle a perdu un peu la tête, une sorte de démence sénile. Et je suis devenu, enfin, j'ai demandé d'être son tuteur pour pouvoir l'aider. Donc, je suis devenu son tuteur et j'ai pu avoir accès à tas de sortes de documents, dont un document de son père, qui était suisse, donc bourgeois de Fribourg. Et je me suis dit, tiens, en fin de compte, elle était peut-être bipolaire. Mais sur ce côté de ses origines, en effet, il y a peut-être à creuser. Et j'ai creusé, et j'ai en fin de compte trouvé que oui, mon grand-père était suisse. Et donc, je suis allé jusqu'à redemander la nationalité suisse pour mes filles et moi-même. Et donc, je suis franco-suisse. Et donc, ma mère disait la vérité. C'est assez touchant, parce que vous êtes gamin, et puis on vous dit, ta mère raconte n'importe quoi. Puis en fin de compte, bah oui, elle raconte n'importe quoi. C'est vrai que là... Et puis d'un seul coup, il y a une chose comme ça qui vous arrive, et une chose quand même forte. Donc voilà, je suis fribourgeois du côté de ma mère, et puis une sorte de portugais brésilien, mais très français, parce que mon père a été naturalisé en 48 par un maire socialiste. Et sur son lit de mort, je me souviens qu'il m'a dit « Gamin, tu voteras toujours socialiste. »
Et votre père parlait donc uniquement français avec vous ?
Alors mon père parlait uniquement français avec moi. Le Portugal était une chose qu'il fallait absolument pas évoquer. À tel point qu'il faisait appel à une main-d'œuvre portugaise. Et avant que les gens trouvent un appartement, une chambre, ils dormaient chez mes parents. Et mon père interdisait aux Portugais de parler portugais lorsque je rentrais dans la pièce. C'est-à-dire que devant le gamin, on parle français, et puis après, je vous passe toutes les choses de ces gens-là, voulant absolument être intégré. L'argent que tu gagneras en France, tu le dépenseras en France. Je ne veux pas de maison construite au Portugal sur l'argent gagné en France. Puis on disait, oui, monsieur Da Silva. Donc oui, origine portugaise, j'ai posé beaucoup de questions à mon père quand je grandissais, et il a accepté, quand j'avais 17 ans, de m'emmener au Portugal. Donc nous y sommes allés ensemble. Et il critiquait tout. Il critiquait les Portugais, il critiquait tout. Il critiquait ce pays. Mais moi, j'avais beaucoup de plaisir à me balader avec lui, surtout dans cette région du Portugal que j'adore, le Nord, le Trás-os Montes, tout ça, c'est magnifique. Et donc, je lui disais, mais c'est pas possible, Miguel da Silva Fernandez, je parle pas un mot de portugais, j'ai l'air de quoi. Et alors, il me disait toujours, t'as l'air d'un Français.
Vous en avez des regrets?
Oui, bien sûr. Mais alors, depuis, ça fait rire tout le monde, parce que je suis allé beaucoup jouer au Portugal, je suis allé jouer au Brésil plusieurs fois. Tout le monde arrive, des journalistes arrivent, et tout de suite, Miguel da Silva, falar portugais, tout ça, puis on part, je lui dis, arrêtez tout de suite. Non, si vous voulez, un peu d'anglais, avec un accent très français, et le français. Mais non, mais je sens qu'il y a quand même une musique. J'ai une musique dans la tête, j'ai une qui vient de là-bas, enfin, je comprends assez bien. Mon père écoutait beaucoup de fado, j'écoute du fado, il y a quelque part quelque chose de moi, de lusophone.
On ne peut pas tout combattre, en fait. Il y a des choses qui passent par-delà les volontés.
Voilà. Et je pense qu'il faut les laisser émerger et les laisser... Par exemple, le choix de l'alto, le choix de cet instrument, est lié forcément à cette personnalité, à cette mélancolie, à cette saudade.
Quand que vos chorarei meu triste fado que em tão dura paixão me sepultou que melhor não seja dor que me deixou o tempo que me deixou o tempo de meu bem desenganado de meu bem desenganado mas chorar não se estima neste estado aonde suspirar nunca aproveitar que amor não seja amor que me deixa o tempo que me deixa o tempo de meu bem desenganado de meu bem desenganado desenganado
quand on va peu au concert est-ce que le disque n'est pas une façon de pouvoir s'ouvrir au monde.
Tout à fait. Ça, c'est le disque m'a ouvert, m'a produit mes premières grandes émotions musicales avec les quatuors de Beethoven, avec les Amadeus, avec tout ce que faisaient les Amadeus, avec leur enregistrement des six quintettes à deux altos de Mozart. Mais tout son qui projette quelque chose de profond, de dense, une voix. Moi, je peux être très ému par Amalia Rodriguez, ça me bouleverse. Reggiani, chantant, ça me bouleverse. Des voix, quoi. Le pouvoir évocateur du son, ça me fascine. Et je n'arrête pas de parler de ça à mes collègues, à mes élèves. Lorsque vous arrivez sur scène, vous avez quelques secondes pour faire entendre votre voix. Après ça, c'est vous déroulez. Mais le pouvoir évocateur du son, ça c'est une chose exceptionnelle. Thank you.
Le quatuor des dissonances de Mozart par les Amadeus. C'est ainsi que se referme le premier épisode des Grands Entretiens avec Miguel da Silva. Réalisation Gilles Blanchard, prise de son Yann Fressy, mixage Olivier Dupré, attaché de production Flora Sternadel. Demain, à la même heure, deuxième épisode de ce portrait. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.